Oui, la puissance de la résurrection, la puissance de la résurrection est immense. Et pourtant, cette puissance, elle est encore cachée aux yeux du plus grand nombre. Elle n'est pas encore pleinement visible pour tous. Elle le sera pleinement à la fin des temps, quand le Christ lui-même viendra au milieu de nous, au milieu de ce monde, pour séparer les justes et les injustes, pour que la gloire de Dieu soit pleinement manifestée. Et pour appeler au ciel tous ceux qui ont espéré en lui. Seigneur Jésus, sois au milieu de nous, comme tu as été au milieu des apôtres, parfois craintifs. Sois au milieu de nous ce soir, Seigneur Jésus. Viens au milieu de nous. C'est toi qui nous enseignes, c'est toi qui nous conduis, c'est toi qui nous guéris. Sois au milieu de nous, Seigneur Jésus, toi qui es ressuscité pour affermir notre foi. De l'Évangile selon saint Luc au chapitre 24 à partir du verset 36. Jésus se tint au milieu des apôtres et leur dit « Paix à vous ». Saisi de frayeur et de crainte, il pensait voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi tout ce trouble et pourquoi des doutes montent-ils en votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi ». Palpez-moi et rendez-vous compte qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Ayant dit cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et demeuraient saisis d'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de pain grillé, il le prit et le mangea devant eux. Puis il leur dit, « Telles sont bien les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse. » Tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures et leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et qu'en son nom le repentir, en vue de la rémission des péchés, serait proclamé à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. De tout cela, vous êtes témoins. » Et voici que moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Vous donc demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut. Nous avons lu un épisode où Luc raconte une apparition de Jésus à ses apôtres. Et comme je l'avais dit la semaine dernière, par rapport à ce texte que j'avais évoqué, et on avait vu que déjà les apôtres avaient dit qu'ils croyaient que Jésus était ressuscité. Quand les disciples d'Emmaüs étaient revenus dans l'évangile de Luc, ils disent, bah oui, nous le savons, il est apparu à Pierre. Donc on a l'impression qu'ils ont la foi. Et puis, quand il apparaît devant tous les apôtres, ceux qui ne l'ont pas encore eu, ceux qui l'ont déjà vu, voilà qu'ils sont tous effrayés. Donc ils ont fait une profession de foi en quelque sorte, juste avant, quelque temps avant, et puis quand Jésus apparaît, ils sont tous effrayés. Ça veut dire qu'en réalité, ils ont foi que Jésus est ressuscité, mais légèrement, quoi. Oui, ça reste encore superficiel. Donc, quand le Seigneur apparaît, très vite, leurs doutes reviennent, leurs angoisses, leurs frayeurs, ils reviennent dans des considérations anciennes, alors qu'ils n'avaient pas la foi, ils croient voir un fantôme. Et comme je le disais la dernière fois, c'est un peu comme ça pour nous aussi. Certains d'entre nous ont la foi dans le Christ ressuscité, mort et ressuscité. C'est ce qui caractérise un chrétien. Un chrétien, ce qu'il caractérise, c'est qu'il est baptisé, mais c'est aussi qu'il a foi en Jésus mort et ressuscité. C'est le cœur de notre foi, c'est le cœur, c'est le plus important. Donc si on n'a pas foi dans cela, c'est comme si il y avait un trou noir au centre de votre foi en Dieu. Si vous êtes chrétien, il y a un trou noir au centre. Ce trou noir, c'est l'essentiel qui n'est pas encore là. Bon. Mais même quand on a foi en Christ ressuscité, en tout cas qu'on le proclame, on le dit dans le credo tous les dimanches, dans les églises catholiques, à la messe, même quand on le proclame dans le credo, et ce credo, il existe depuis les premiers temps de l'Église, depuis le 2e, 3e siècle, les premiers credos ont été mis en place pour que la règle de foi soit la même chez tous les chrétiens. Donc il y a eu plusieurs credos, mais plus progressivement, les credos se sont harmonisés. Aujourd'hui, on n'a plus que deux credos. Au début, il y avait dans chaque cité, dans chaque province, il y avait des credos, puis progressivement, l'Église s'est harmonisée pour ne proclamer que deux credos dans le monde entier, dans l'Église catholique. Voilà. Même si le dimanche, on dit ce credo, dans notre foi, dans notre vie concrète, peut-être qu'on n'a pas une foi très forte dans le Christ ressuscité, je parle en premier pour moi. Notre foi est souvent faible dans le Christ ressuscité parce que dès qu'on est dans des épreuves dans notre vie, on a l'impression que Jésus n'est plus là, qu'on va couler, qu'on va mourir, que le monde va s'écrouler. Si je crois que Jésus est ressuscité, même les épreuves les plus grandes ne doivent pas me faire douter. Or, on voit que dans les épreuves, très vite, on revient à notre faiblesse, à nos limites, on se met à douter, on se dit « mais est-ce que Dieu est là? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il va s'occuper de moi ?» Voilà, donc notre foi est ébranlée facilement. Et donc c'est pour ça que chaque année, nous fêtons cette solennité de Pâques pour faire grandir notre foi dans le Christ ressuscité. Il n'y a pas un stade où on pourra dire « ça y est, ma foi est adulte, elle est suffisante, j'ai atteint le niveau 100 et c'est bon ». Non, notre foi elle peut encore grandir, grandir, grandir sans cesse. C'est un chemin qui ne trouvera son accomplissement qu'au ciel, là où nous verrons de nos propres yeux Jésus ressuscité et que nous pourrons le bénir et l'adorer, qui nous prendra dans ses bras, qui nous embrassera. Voilà, mais pour l'heure, les apôtres, eux aussi, vivent cette difficulté à croire en Jésus ressuscité. Ils sont comme nous, ce n'est pas des super-héros, comme je le disais la semaine dernière. Ils sont fragiles, ils sont faibles, il y a des moments où ils doutent, il y a des moments où, quand ils voient le Christ, ben, leur foi reprend une force, et puis ensuite, ils vont peut-être se remettre à douter. N'empêche qu'à la fin de leur vie, les apôtres, ils seront capables de mourir pour cela. Ils vont mourir martyrs. Alors, le martyr chrétien, ça consiste à être tué en ne renonçant pas à sa foi. Les martyrs chrétiens, c'est ceux qui, on leur a dit, renonce à ta foi, sinon on te tue. Eh bien, ils préfèrent être martyrisés et tués que de renoncer à la foi. Celui qui arrive à ce niveau-là, ça veut dire qu'il a une foi très forte dans le Christ ressuscité. Les apôtres ont cette foi parce qu'ils savent qu'on peut les massacrer, on peut les tuer. De toute façon, après, ils vont voir le Christ et seront récompensés d'avoir annoncé leur foi. D'accord ? Le martyr chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui tue les autres, je rappelle. Le martyr chrétien, c'est quelqu'un qui meurt. Le martyr chrétien, il meurt pour sa foi. Il ne tue jamais les autres pour sa foi. Ça, ce n'est pas le martyr chrétien. Alors, les apôtres vont donc toucher le Christ ressuscité. Ils vont le toucher, le palper. Et c'est parce que Jésus va venir les voir pendant 40 jours que leur foi va s'affermir, que leurs angoisses vont partir. Ensuite, ils vont recevoir l'Esprit Saint au jour de la Pentecôte. Donc leur foi grandit progressivement, et même après la Pentecôte, leur foi va encore grandir quand ils vont évangéliser. Alors, dans ce texte, on voit que le Christ ressuscité, il a un vrai corps. On se demande comment c'est un corps de quelqu'un de ressuscité. C'est un corps qui ne souffre plus. Saint Paul dit que c'est un corps spirituel. Mais quand il le touche, il y a encore des os, et Jésus peut manger. Bien sûr, le corps ressuscité n'a plus besoin de se nourrir, il n'a pas besoin de manger, il n'a plus besoin de manger, il est spiritualisé, il vit de la force même de Dieu. N'empêche qu'il a encore des os et des nerfs et tout ça, bon, je ne peux pas en dire beaucoup plus. C'est un corps qui est complètement spiritualisé, c'est-à-dire c'est un corps qui est complètement rempli d'esprit. C'est un corps qui est immortel, complètement rempli d'Esprit Saint. Bon, quand on y sera, on en reparlera, ce sera plus simple. Voilà, alors maintenant, dans la deuxième partie du texte qu'on a lu, il est dit aussi que Jésus leur ouvre l'esprit à l'intelligence des Écritures. Alors pour comprendre cela, il faut comprendre ce que le prophète Isaïe avait dit, c'est que l'Écriture était fermée, scellée. Qu'est-ce que ça veut dire, elle était fermée? Ça veut dire que le peuple juif, ne mettant pas sa foi en Dieu, eh bien, la parole de Dieu lui est devenue opaque dans son cœur. Voilà. À part ceux qui ont continué à croire, mais pour le plus grand nombre, c'est devenu opaque. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent plus ce que cette parole veut dire. Et qu'est-ce que cette parole veut dire? Elle annonce le Christ ressuscité, en particulier dans les quatre chants du serviteur qu'on trouve dans le livre d'Isaïe, où il est question, dans le quatrième chant en particulier, d'un homme qui souffre et qui donne sa vie pour les autres et par qui tout le monde est sauvé. C'est une annonce du Christ mort et ressuscité, puisqu'ensuite il est dit que Dieu va le glorifier, ce mystérieux serviteur. Donc ça n'a pas été compris par le peuple juif. Et au temps du Christ, même les apôtres n'avaient pas compris ça eux-mêmes. Il faut que le Christ lui-même leur explique, ou comme aux disciples d'Emmaüs, il faut qu'il leur explique dans le texte pour leur dire, qu'il leur fasse comprendre cela. Eux-mêmes n'avaient pas compris, comme les juifs de leur époque. Et Jésus leur ouvre l'esprit à l'intelligence des Écritures, c'est qu'il leur fait comprendre le sens de la Bible. Et le sens de la Bible, c'est d'abord, le noyau de la Bible, c'est d'abord cela. C'est à partir de cela qu'on peut comprendre la Bible. Et cette ouverture à l'intelligence des Écritures fait aussi qu'on va comprendre que cette parole de Dieu est une nourriture. Tant que notre esprit n'est pas ouvert à l'intelligence des Écritures, la Bible, c'est quelque chose de rébarbatif. Ça ne nous intéresse pas. Je me rappelle quand j'étais jeune, moi j'étais croyant, mais la Bible, ça ne m'intéressait pas. Quand à 25 ans, j'ai eu une grâce où j'ai vu le ciel s'ouvrir et puis plein de grâces mystiques pendant un certain temps, ben là, la Bible a commencé à me parler fortement. J'y recherchais dans la Bible le sens de ce que moi je vivais, de ce que le Christ me faisait vivre dans ma vie. Et j'y découvrais le sens aussi de la vie du Christ. Ça s'est mis à me parler. Autrement dit, tant que le Christ n'a pas ouvert notre esprit à l'intelligence des Écritures, la Bible, c'est comme si j'ouvrais du Balzac, du Victor Hugo, ou du Flaubert ou n'importe quoi. Bon, très bien, c'est intéressant, ça parle. Parfois, on peut trouver ça beau, mais ça ne rejoint pas notre cœur comme quand notre esprit est ouvert à l'intelligence des Écritures. À ce moment-là, la parole de Dieu devient vivante et elle devient une force pour notre vie. Et elle peut aussi nous guérir. À ce moment-là, la parole de Dieu devient quelque chose dont nous avons soif profondément. Alors, donc, Jésus ouvre aux apôtres, ouvre leur esprit à l'intelligence des Écritures, et ensuite il les envoie en mission, parce qu'une fois qu'ils ont compris les Écritures, ils peuvent partir en mission, ils peuvent évangéliser sans dire n'importe quoi, sans raconter n'importe quoi. À partir du moment où on comprend l'Écriture, la Bible, le cœur de la Bible, on peut commencer à dire des choses qui sont vraies et pas des choses approximatives ou ce qu'on pense être vrai mais qui n'est pas vrai. Voilà. Et donc les apôtres vont être envoyés en mission, mais Jésus leur dit aussi, je vous envoie, mais je vais vous donner une force qui vient d'en haut. Quand j'étais séminariste dans la communauté de l'Emmanuel, une fois j'étais à Paray-le-Monial, il y en a qui connaissent cette ville où Jésus a montré son cœur, et on avait une petite retraite entre séminaristes de la communauté d'Emmanuel, et il y avait un séminariste qui était complètement démoralisé. Je ne sais pas s'il voulait arrêter, peut-être. Vous savez que tant qu'on n'est pas ordonné diacre, on peut arrêter sa formation. Et même, tant qu'on n'est pas ordonné diacre, un séminariste peut arrêter, parce qu'il estime que ce n'est pas son appel. Il a discerné que ce n'est pas son appel. Bon. Entre ceux qui commencent leur formation pour être prêtre et ceux qui arrivent à être prêtre, il y a 50% qui arrêtent. Donc quand on commence, ça ne veut pas dire qu'on va aller jusqu'au bout. Que 50% arrêtent, c'est très bien, entre parenthèses, ça prouve qu'on est libre. On n'est pas obligé d'y aller. Voilà, on vous aide à réfléchir et à prier. Enfin, bref, ce séminariste, il était démoralisé. Je ne me rappelle plus s'il est devenu prêtre après ou pas, parce que je ne sais plus qui c'est. Et on priait pour lui. Et dans notre communauté, les malades, quand on prie, on a des paroles qu'on reçoit, et on dit, ben voilà, le Seigneur te dit ceci, cela, comme on va le faire tout à l'heure pour vous tous. Bon. Et moi, je reçois une parole, la force vient du ciel. Je reçois cette parole, je dis la force vient du ciel, comme ça. Et à ce moment-là, boum, l'orage, le tonnerre tombe sur la maison. D'ailleurs, il a fait sauter le téléphone, parce que c'était un hôtel, donc je sais que le téléphone a pété partout. Bon. Alors qu'il n'y avait pas d'orage nulle part, on n'entendait pas d'orage. Je ne sais pas comment le nuage est arrivé à toute vitesse. Et la foudre est tombée sur la maison, une seconde, deux secondes, trois secondes, je ne sais pas, après que j'ai dit la force vient du ciel. Voilà. Donc si lui n'a pas compris que la force vient du ciel, il est vraiment sourd. On lui dit la force vient du ciel, l'orage tombe sur la maison en ce moment-là. Bon, s'il n'a pas compris, c'est que c'est désespéré. Je ne sais pas s'il a compris ou pas, je ne vais pas demander. Voilà. Mais en tout cas, vous voyez, la force vient du ciel. C'est comme ça. Et si nous avons la foi, eh bien cette force, nous pouvons la recevoir. Quand j'étais séminariste, il y en a qui savent, parce que j'ai déjà raconté à Paray-le-Monial, j'ai beaucoup, beaucoup souffert. Je suis tombé dans des angoisses extrêmes, j'ai eu des épreuves très, très dures. Et à chaque fois, je me reprenais cette parole qui vient du livre d'Isaïe, « Si vous ne croyez pas, vous ne tiendrez pas. » Et je me disais, « Thierry, si tu ne crois pas, tu ne tiendras pas. » Donc du coup, je me disais ça sans cesse. Et du coup, ça m'a fortifié dans ma foi et j'ai tenu, puisque je suis devenu prêtre jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Donc cette force, elle vient du ciel. Elle nous demande de croire que Dieu peut nous envoyer la force, parfois dans notre faiblesse. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un boom tout de suite. Bon là, c'était spectaculaire. Mais parfois, c'est une force qu'on n'entend pas. Comme disait Thérèse de l'Enfant Jésus, moi je suis appuyée sans appui. Thérèse, elle n'a jamais vu la force tomber sur elle, mais elle sentait, ou plutôt elle ne sentait pas une force qui la portait. Voilà, parfois la force, on ne la sent pas, on ne l'entend pas, et elle nous porte. Cette force, c'est l'Esprit Saint. Voilà, maintenant je vais donner quelques témoignages des grâces que Dieu opère dans cette prière. J'ai reçu ce témoignage d'Emmanuel Le. Emmanuel Le, c'est une femme, qui nous dit ceci. Alors que le docteur m'avait prescrit de l'amaline, C'est un médicament à base de morphine. J'ai reçu l'appel intérieur à venir à Saint-Nicolas-des-Champs. Alors pourquoi elle avait besoin d'un médicament à base de morphine ? J'avais de vives douleurs dans la tête. Elle met vives douleurs tête-mâchoire. Suite à une chute sur du carrelage à l'âge de 8 ans, l'IRM, seulement pratiqué qu'à 25 ans, a révélé que l'articulation de la mâchoire était très abîmée. Donc j'ai été opéré. Une IRM plus récente a révélé que l'opération n'a pas bien tenu. Le professeur a dit qu'il ne pouvait plus rien faire, c'était trop abîmé. Donc après l'opération, on ne peut plus rien faire. Et l'opération n'a pas porté son fruit. Les douleurs ont toujours été présentes. J'ai 50 ans. Une parole de connaissance a annoncé que des douleurs faciales vont être guéries. Donc pendant la prière des malades à Saint-Nicolas. Et pour moi, cela s'est réalisé. Cela fait environ 2 mois que mes douleurs ont disparu. Il reste la brisure de l'articulation de la mâchoire qui me gêne seulement. Donc elle sent cette brisure qui la gêne, mais elle n'a plus besoin, ou plutôt elle n'a même pas eu besoin de prendre de morphine qu'on lui avait prescrit pour enlever cette douleur, puisque le Seigneur a enlevé cette douleur sans guérir la brisure de l'articulation de la mâchoire, mais c'était l'essentiel pour elle. Je termine par gloire et louange à notre Seigneur Jésus, notre Père des cieux. Merci à la communion des saints que je bénis. Emmanuel. Voilà, un autre témoignage de Bénédicte. Bonjour, je suis venu à Saint-Nicolas-des-Champs l'année dernière, au mois de mai, pour voir la prière des malades et prier pour certains malades. Il y a une parole de connaissance concernant un petit garçon qui avait des crises d'angoisse en quittant ses parents. À la description, je me suis dit, cela ressemble bien à mon aîné qui avait alors 9 ans. Nous étions tous en souffrance de voir ces crises de panique qui arrivaient pour des grandes comme des petites séparations. Il était alors inconsolable, il pleurait très fort, s'accrochait à nous, il paniquait complètement et rien ne pouvait le raisonner. Avec mon mari, on avait de la peine à sortir, ne serait-ce que pour 1 heure. Ils ne pouvaient même pas quitter leur enfant 1 heure, il était déjà en crise de panique. La parole de connaissance disait « à partir de maintenant, il n'aura plus ce comportement ». Je suis rentré pleine d'espérance et j'ai attendu sans en parler à personne d'autre que mon mari. Mon fils n'a pas eu une seule crise depuis ce moment, ni même une seule petite appréhension à l'idée de nous quitter. Il est tout à fait épanoui. Je lui ai dit seulement plusieurs mois plus tard que c'était Jésus qui l'avait guéri. Gloire à Dieu. En grande union de prière, Bénédicte. Voilà, merci Seigneur pour cet enfant que tu as guéri. Alors, Isabelle et Christiane. Bonjour, il y a 1 an, 22 avril 2018, vous avez écrit à propos de ma mère, donc ça c'est une lettre que nous avions reçue, et puis on a déposé des intentions dans la corbeille, qui souffrait de cystite et d'infection nosocomiale. Vous aviez déposé une intention de prière à son endroit le jeudi 26 avril 2018. Ma mère et moi-même nous permettons de revenir à vous pour témoigner de sa guérison. Elle n'a plus d'infection nosocomiale depuis 1 an, et les cystites se sont espacées peu à peu, la dernière ayant eu lieu il y a environ 6 mois. Pardonnez-nous si nous avons un peu tardé, mais ce sont des affections qui nécessitent un peu de temps pour savoir si la rémission est effective. Tenons à remercier l'équipe de Saint-Nicolas-des-Champs et les fidèles de cette église pour leur prière. Encore une fois, merci beaucoup, etc., Isabelle et Christiane. Alors, d'autres témoignages personnes qui sont venues témoigner au groupe d'écoute se tiennent après la prière pour écouter les témoignages en particulier. Alors, Elisor avait des crampes récurrentes qui la faisaient souffrir depuis longtemps, jour comme la nuit. En novembre 2018, à la prière des malades, elle a été guérie de ses crampes dans les 2 jambes. Anne-Isabelle a constaté après une parole de connaissance annonçant qu'une personne ressentait de la chaleur dans ses pieds et qu'elle était guérie, qu'elle n'avait effectivement plus mal dans ses pieds et qu'à la place de la douleur, elle ressentait une douce chaleur. Donc elle était guérie dans ses pieds qui souffraient. Une autre fois, une parole de connaissance annonçait que le Seigneur guérissait une personne en dépression, que cette personne pleurait depuis 5 jours, et ça faisait effectivement 5 jours que Anne-Isabelle pleurait. Alors, Marie-Madeleine rend grâce à Dieu pour plusieurs guérisons et libérations reçues à la prière des malades. Elle était en particulier persécutée par un esprit impur la nuit, ce qu'on appelle un mari de nuit. Il y a des personnes dans cette assemblée qui savent ce que c'est, d'autres ne le savent pas. c'est pas grave, en tout cas c'est un démon qui vient vous persécuter pendant la nuit. Elle ressentait aussi comme des pointes qui lui rentraient dans la peau, et cela la démangeait dans tout le corps. Suite à une parole de connaissance, en 2016, tout a cessé le lendemain. Le Seigneur a aussi guéri ses vertèbres, elle n'arrivait plus à tourner la tête ni à droite ni à gauche. Il y a une parole de connaissance en septembre 2018. À ce moment-là, elle a ressenti une chaleur. Elle a pu tourner la tête comme elle voulait, à droite et à gauche. Et depuis, aucune douleur ni blocage n'est réapparue. Puis, dernier témoignage que je donnerai ce soir, c'est celui d'Alexandra, qui avait très mal au côté, une souffrance aiguë comme une appendicite, bien que ce ne soit pas une appendicite. Son médecin avait plutôt diagnostiqué un problème de rein. Pendant la prière des malades, une parole de connaissance qui pouvait la concerner éventuellement, la toucher, mais elle ne savait pas si cette parole était pour elle ou pas. La nuit qui a suivi, elle a vu Jésus qui venait à elle de sa croix, donc Jésus qui venait, la croix derrière et Jésus qui venait à elle. Jésus lui a dit « Regarde-moi, je suis là ». Et depuis qu'elle a eu cette vision dans son sommeil, la douleur est partie. Voilà, merci Seigneur pour toutes les grâces que tu nous accordes. Merci pour ta présence au milieu de nous.